45% vun de monoparentale Familien zu Lützeburg liewen ënner der Armutsgrenz weit iwwer dem europäeschen Durchschnitt, die leit bei 33%. Wat sind d'Ursachen, a wat wéng Politik kéint géint hir Prekaritéit hëllefen? A wit e vum Dach de Moin as Anne-Kathrin Guyot, chercheuse beim Forschungsinstitut LISER, mit Entringer feiertech Gespräch.
Un peu moins que la moitié des 5% en 2013, on en était à 25%. Bonjour Anne-Kathrin Guyot.
Bonjour.
Vous êtes économiste et chercheur auprès du LISER, le Luxembourg Institute for Socio-Economic Research. Vous êtes spécialiste en indicateurs et calculs de pauvreté et de précarité. Et partant du nombre des personnes concernées, combien de familles au Luxembourg sont monoparentales? Combien risquent de le devenir?
Alors, si on regarde simplement aujourd'hui le pourcentage de familles qui sont monoparentales, dans l'enquête, on voit que c'est 5%. Donc c'est assez peu. On peut se dire, bon, mais c'est un problème marginal. Alors, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de gardes alternées. Donc l'enfant reste une semaine chez le papa et une semaine chez la maman. Et il est enregistré que chez l'un des deux dans l'enquête. Donc on pourrait dire que ce nombre de familles monoparentales est sous-estimé dans l'enquête. Et puis ça, c'est une photo à un moment donné. Mais si on regarde sur le tout au long de la vie, la probabilité de divorcer est maintenant très élevée. On parle d'un divorce sur deux mariages. Et si on regarde sur le tout au long de la vie, la probabilité de passer par la case monoparentale, d'être seul avec enfant, que ce soit quelques mois ou quelques années, est très élevée dans la population luxembourgeoise. Et d'ailleurs dans toute l'Europe.
Quand on dit monoparental, ça couvre une période à peu près de 20 ans où l'enfant, il est à charge des parents. Dans ce type de calcul n'entrent pas les enfants, les jeunes étudiants entre 18 et 25 ou 30 ans. Là aussi, la pauvreté joue éventuellement, mais n'est pas répertoriée dans les statistiques.
En fait, elle est donc vraiment la famille monoparentale, c'est la famille avec des petits-enfants, enfin, en dessous de 18 ans, donc des enfants qui sont clairement aux études. Et puis tous ceux qui sont entre 18 et 24 ans mais qui ne sont pas actifs occupés, donc qui sont aux études ou qui sont inactifs, sont aussi comptés comme enfants dépendants. Alors il faut aussi bien comprendre que peu importe le lien de filiation, si c'est une grand-mère qui s'occupe de son petit-fils parce que les parents ont disparu, eh bien c'est aussi une famille monoparentale.
Parlons de seuil et de taux de pauvreté. Comment est-ce que ces chiffres sont élaborés? Pauvreté par rapport à quoi et par rapport à quel revenu?
Alors voilà, c'est important de comprendre un peu ce qui est derrière le mot pauvreté. D'abord, il y a plusieurs définitions de la pauvreté. Au niveau européen, on a d'ailleurs toute une batterie d'indicateurs qu'on peut confronter, comparer pour être sûr qu'on ne se trompe pas justement sur le constat d'un risque élevé de pauvreté pour un sous-groupe comme les familles monoparentales au Luxembourg. Alors, l'indicateur le plus fréquent, celui qu'on entend souvent dans les médias, c'est le taux de pauvreté. Le pourcentage de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Alors, c'est assez technique, mais on peut vraiment imaginer qu'on classe tous les Luxembourgeois selon le revenu, du plus bas au plus haut. Et au milieu de cette chaîne, il y a le Luxembourgeois du milieu. Eh bien, son revenu à lui va servir pour calculer le seuil. On prendra son revenu et on prend 60% de son revenu. Alors, c'est une convention, pourquoi pas 59, 61. C'est vraiment une manière de tenir compte du niveau de vie du Luxembourg. On ne va pas utiliser le même seuil de pauvreté en Roumanie qu'au Luxembourg, parce qu'on a vraiment la volonté avec cet indicateur de mesurer les gens qui sont laissés derrière, qui sont éloignés du niveau de vie du pays dans lequel ils vivent. Alors très très concrètement, pour une famille monoparentale avec un enfant, ce seuil c'est 2 231 € par mois. Et si on regarde par exemple une famille monoparentale avec 3 enfants, c'est 3 200 €. Donc c'est très concret et il faut penser que le revenu comprend toutes les composantes du revenu, le salaire, les transferts sociaux, les allocations familiales, pas le patrimoine. Donc le patrimoine est exclu de ce calcul.
Ce qui est intéressant, si après on regarde la charge du logement qui intervient aussi dans la charge et dans le pouvoir d'achat des familles, parce que les familles qui n'ont pas à payer du logement et qui ont éventuellement un patrimoine, ils s'en sortent beaucoup plus, beaucoup mieux, même si elles sont monoparentales.
Tout à fait. Donc là, évidemment, on ne peut pas savoir si la famille a déjà payé son logement et, par exemple, est pleinement propriétaire de sa maison. On en tient compte avec d'autres indicateurs. Il y a un indicateur de surcoût du logement, par exemple, qui de nouveau pointe très très fort la situation difficile des familles monoparentales. On voit qu'elles consomment une grosse partie de leurs revenus pour se loger dans pas mal de cas.
Donc Anne-Kathrin Guyot, vous êtes chercheuse au LISER, vous êtes économiste. Si on revient au taux de risque de pauvreté, il est à 16% pour la population globale. Il est à 45-46% concernant les familles monoparentale. Certaines organisations critiquent ce calcul, ce taux et la façon de définir la pauvreté par rapport à ce calcul. Entre autres, Jean-Jacques Rommes, le président du comité exécutif de l'UEL, avait critiqué ce calcul ici à l'antenne. Il disait que ce taux décrit un clivage relatif des richesses dans un pays. Le taux de risque de pauvreté augmente quand le nombre des personnes riches au pays augmente. C'est-à-dire avec les nouvelles entreprises, des patrimoines et des richesses que le Luxembourg attire, et c'est une de ses politiques économiques aussi, le taux de risque de pauvreté augmente. Donc, selon l'UEL, ce taux ne décrit pas un réel état des lieux, mais seulement une vérité relative. Qu'est-ce que vous dites de cette réflexion ?
Alors, c'est en effet un taux de pauvreté relatif, et c'est précisément ce qu'on veut mesurer. On veut, comme je le disais tout à l'heure, se comparer aux luxembourgeois du milieu. Donc, s'il y a de plus en plus de personnes très très riches et très nanties, ça ne va pas changer le taux de pauvreté. Ce qui changera le taux de pauvreté, c'est si le luxembourgeois du milieu devient plus riche. Donc ça, c'est une première réserve que j'émettrai par rapport aux critiques que vous énoncez. Et puis, comme je vous le disais, au niveau européen, on a différents indicateurs. Donc précisément, pour cette étude sur les familles monoparentales, j'ai aussi regardé la déprivation des enfants. C'est une toute autre approche. D'abord, les familles monoparentales sont par définition des familles avec enfants. Et alors, on se demande comment vivent ces enfants, comment vivent-ils dans ces familles monoparentales, très concrètement au quotidien. Cet indicateur-là, on l'a développé pour toute l'Europe. Donc là, maintenant, on compare la Roumanie avec le Luxembourg, peu importe le patrimoine des uns et des autres. On regarde très concrètement, est-ce que l'enfant peut manger, peut se vêtir, a des chaussures adaptées à son âge, peut partir une semaine en vacances par an, peut aller de temps en temps à la piscine, inviter quelques amis. Il y a comme ça 17 petites mesures qui constituent l'indicateur de déprivation des enfants. Et là, à nouveau, les enfants qui vivent en famille monoparentale, il y a un tiers qui manque d'au moins 3 items. Donc au quotidien, dans leur vie de tous les jours, ces enfants souffrent de déprivation matérielle.
Et combien d'enfants sont concernés au Luxembourg et qu'en est-il en comparaison avec les autres pays d'Europe ? Est-ce qu'il y a un taux qui est retenu ?
Oui, donc c'est 30%, donc c'est plus ou moins un tiers des enfants qui souffrent de déprivation. Alors il faut savoir que le Luxembourg est vraiment très bien placé dans cette échelle de déprivation. Pour la population totale, il y a très très peu de déprivation. On parle de 80% en Roumanie. Pour la population totale, on est vraiment à un niveau très très bas de déprivation ici au Luxembourg. Mais malheureusement, pour les familles monoparentales, elles ont un risque 4 fois plus élevé que le reste des enfants.
Et le risque plus élevé que, comparé avec la Roumanie, par exemple.
Donc là, je crois qu'il faut vraiment comparer entre le reste des enfants et les familles en monoparentales.
Dans un même pays.
Dans un même pays, mais même quand on fait ça en Roumanie, il y a moins de différence entre les familles monoparentales et les autres enfants.
Parce que la pauvreté, de toute façon,
elle est plus élevée pour tout le monde. Ici, ce qui est important, c'est vraiment de se dire, dans une classe, à l'école, ces enfants sont différents des autres. Ils n'ont pas la même chose que les autres, même pour des biens de base.
Et ça concerne un tiers.
Oui.
Des enfants, des familles monoparentales.
Voilà, et là il faut se dire vraiment que ça concerne des enfants. Toutes les études qu'on en a faites au Liser montrent qu'il y a une transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Quelque part, quand on vit en tant qu'enfant en pauvreté, eh bien on a un plus grand risque de devenir un adulte pauvre.
Pourquoi les monoparentaux sont-ils plus exposés au risque au Luxembourg que dans d'autres pays ?
Alors là, on a fait des études économétriques pour un peu tenir compte de toutes les caractéristiques des familles monoparentales, leur niveau d'éducation, leur niveau d'activité. Alors la première explication qui vient à l'esprit, c'est de se dire peut-être que ces personnes travaillent un peu moins ou un peu moins longtemps, qu'elles sont à temps partiel parce qu'elles ont une charge de famille. Et en fait, les chiffres ne corrobore pas ça. Donc c'est pas un problème d'inactivité, c'est pas un problème de temps partiel. On voit vraiment que dans pas mal de cas, c'est un problème de pauvreté au travail. Donc ce sont des personnes qui travaillent très souvent à temps plein et qui n'atteignent pas le seuil de pauvreté.
C'est ce que vous appelez des in-work poverty.
Exactement.
Et comparé par rapport à l'Europe, comment se situe le Luxembourg concernant justement ce facteur-là, cette pauvreté dans le travail ?
Alors justement, quand on classe tous les pays européens selon le taux de pauvreté au travail des familles monoparentales, eh bien on voit le dramatique constat que le Luxembourg est à l'extrême droite du graphique. Donc c'est l'endroit où il y a la plus grosse proportion de familles monoparentales au travail qui sont sous le seuil de pauvreté.
Mais est-ce que cela veut dire que leur niveau de qualification est plus bas, ce qui entraîne des salaires plus bas, et voilà.
Ça pourrait être ça, et c'est d'ailleurs ce qu'on a testé. Et c'est, ça peut être en partie ça. Mais dans l'étude économétrique, justement, on tient compte du niveau d'éducation. Et ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est qu'à niveau d'éducation égal, à composition de famille égale, à âge égal, on voit qu'il y a un sur-risque. Le fait d'être en famille monoparentale augmente le risque de pauvreté.
Qu'en est-il des différences de fiscalité entre les monoparentaux et les couples mariés ?
Alors justement, il y a des études qui ont été faites au niveau luxembourgeois et qui montrent qu'en fait la classe 1A, qui est la classe des isolés avec enfants, est nettement plus taxée que la classe des couples. Alors très très concrètement, pour un même niveau de revenu, il y a des différences énormes. Les familles monoparentales payent 2 à 3 fois plus d'impôts que les couples. Je crois d'ailleurs qu'il y a un collectif qui s'est constitué et qui réclame plus de justice fiscale. C'est vraiment quelque chose qui devrait être en effet discuté au niveau luxembourgeois.
Donc avec la réforme fiscale de ce gouvernement, cette problématique n'a pas été attaquée.
Non, et pourtant il y a un crédit d'impôt pour les familles monoparentales, mais ce crédit d'impôt ne compense pas cette énorme différence entre les isolés avec enfants et les couples qui sont dus au barème eux-mêmes et également aux abattements. Et alors il faut savoir aussi que le crédit d'impôt dépend de la pension alimentaire. Donc une fois que la pension alimentaire est assez élevé ou plus élevé que le seuil, eh bien dans ce cas-là, le crédit d'impôt n'est plus versé ou diminue fortement.
Donc les allocations familiales pallient pas non plus ce manque de pouvoir d'achat. Qu'en est-il de la réforme de l'RMG ? Là, un supplément monoparental a été finalement, après critique, retenu pour un peu pallier une perte qui s'annonçait. Par rapport à ce transfert social, est-ce que là, il y a un peu plus de justesse qu'au niveau de la fiscalité ?
Alors, par rapport au RMG, c'est vrai qu'il y a un vrai effort qui vient d'être fait dans la réforme. Ça permet aux familles monoparentales qui perçoivent le RMG de s'approcher du seuil de pauvreté, même si elles ne l'atteignent pas nécessairement, mais elles s'approchent du seuil de pauvreté. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que le problème luxembourgeois des familles monoparentales, ce sont des familles qui travaillent. Donc ici, on parle des personnes qui sont au RMG et c'est tout à fait positif cette réforme pour ces familles-là. Mais que fait-on pour les autres, quelque part, qui ne sont pas concernés par le RMG, mais qui simplement travaillent et ne parviennent pas à atteindre le seuil de pauvreté ?
On va en revenir aux mesures éventuellement politiques, oui, à prendre pour diminuer le risque de précarité de ces familles. Venons à un indicateur qui a été développé ou publié récemment par le Statec en 2016. Une étude a lancé le budget de référence qui varie selon la situation familiale. Dans l'élaboration du budget, de ce budget de référence, entre une série de critères correspondant aux dépenses des familles, ils font partie l'alimentation, le logement, la mobilité et plein d'autres facteurs. Selon ce calcul, une famille monoparentale avec un enfant a besoin de à peu près 2 600 € par mois. Que pensez-vous de cet indicateur budget de référence ?
Alors là, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de ce taux de pauvreté, 60% du revenu médian, et vous me disiez même, il y a des critiques. Alors c'est vrai que 60% de revenu médian, pourquoi je vous le disais 60, 55, 65 ? Ici c'est une toute autre approche, on se dit au Luxembourg aujourd'hui, pour vivre décemment, combien faut-il ? Alors on n'est pas dispendieux, on ne demande pas une piscine et une Porsche, on demande simplement de vivre décemment dans le pays, il faut X litres de lait, il faut pouvoir aller de temps en temps à la piscine avec les enfants, et on calcule euro par euro combien coûte ce budget. Et alors comme vous le disiez, c'est entre 2005 et 2006 pour les familles monoparentales avec un enfant, alors que selon les 60% du revenu médian, on était à 2231.
C'est un peu moins.
Donc on voit qu'en fait, si on s'attache simplement au risque de pauvreté, le seuil de pauvreté n'est pas tout à fait assez élevé pour avoir une vie décente au Luxembourg si on tient compte de toutes les dépenses nécessaires, le logement, etc.
Justement, le logement, qu'en est-il ? Quel poids fait-il dans ce qui concerne le pouvoir d'achat des familles ? Combien il leur reste d'argent à la fin du mois ? Bon, on ne peut pas chiffrer tête par tête, mais... par pourcentage, que représente le logement ?
Alors oui, c'est un problème qui revient souvent dans les constats chiffrés que l'on fait. Les coûts du logement dans notre étude économétrique sont tout à fait significativement associés au risque de pauvreté et de déprivation des enfants. Alors, il y a un indicateur européen qui regarde le pourcentage de personnes qui vivent dans un ménage qui dépensent plus de 40% du revenu pour le logement. Donc 40% c'est déjà substantiel. Et justement, pour les familles monoparentales, on est de nouveau à un tiers. Donc on tourne toujours plus ou moins autour de chiffres assez élevés. 32% des familles monoparentales dépensent plus de 40% du revenu. Un revenu qui est d'ailleurs plus bas qu'un revenu d'un couple, par définition, parce qu'il n'y a qu'un seul salaire ou un seul transfert social. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce sont des familles qui peuvent être étranglées par les coûts du logement, alors que par ailleurs, on sait qu'elles ont parfois plus de dépenses que les couples, parce que être en famille monoparentale, c'est parfois avoir plus de garde d'enfant, de frais de garde d'enfant ou d'autres frais pour soutenir la famille monoparentale dans son organisation.
Quelles sont alors les politiques à mettre en place en comparaison avec les autres pays européens qui ont probablement des problématiques pareilles par rapport aux monoparentaux? Est-ce qu'il y a des politiques qui marchent bien?
Mais je pense que toutes les politiques qui permettent de soutenir le revenu ou diminuer les coûts des familles monoparentales sont des politiques qui peuvent fonctionner. Alors il y a tout un débat dans la littérature de savoir si ces politiques doivent être universelles, si elles doivent concerner toutes les personnes en situation de pauvreté, peu importe qu'elles soient en couple ou en famille monoparentale, ou si elles doivent être ciblées. Il faut savoir que les chiffres qu'on a sur le design des transferts sociaux au Luxembourg montrent qu'il y a une tradition d'universalisme au Luxembourg. Généralement, les transferts sont universel, c'est-à-dire qu'il concerne tout le monde. L'exemple, par exemple, des allocations familiales. Les allocations familiales concernent tous les enfants. Il y a simplement un supplément pour les enfants en situation de handicap.
C'est politique de l'arrosoir.
Tirer ce constat.
Donc, tout le monde profite de la même chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à l'avenir, justement, cibler plus?
Voilà. Je pense en effet que le Luxembourg gagnera à réfléchir à des politiques qui permettent de soutenir le pouvoir d'achat des familles monoparentales, avec un danger toutefois qu'il faut bien avoir en tête quand on pense à ce genre de politique, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des trappes à monoparentalité comme il y a des trappes à inactivité. Donc simplement, les familles monoparentales, si elles devaient avoir des transferts très spécifiques, qu'elles ne peuvent avoir que si elles sont seules avec enfants, elles doivent pouvoir aussi avoir la chance de se remettre en couple. Donc il faut réfléchir à des dispositifs, et il y en a au niveau européen, où on peut avoir des transitions douces, où par exemple on a une aide quand on est famille monoparentale, et puis si on se remet en couple, il y a une période de transition où on peut tester ce nouveau couple et quand même encore être soutenu.
Donc la fiscalité aussi, c'est clair, la voie royale pour diminuer la précarité des monoparentaux.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau fiscal. C'est vrai que cette différence d'impôt entre les couples et les familles monoparentales est assez difficile à peut-être à justifier. Ce serait intéressant qu'il y ait un vrai débat là-dessus.
Et un chiffre qu'on n'a pas encore retenu, je pense, c'est justement la différence entre hommes-femmes dans les familles monoparentales. 8 sur 10 concernées, familles concernées, concernent des femmes.
Oui, tout à fait.
Alors l'Élysée organise le 19 juin, mardi prochain, à la Kulturfabrik, une conférence débat intitulée « Monoparentalité égale risque de pauvreté, point d'interrogation ». 6 femmes sont sur le panel, donc à côté de vous, qui est invitée?
Alors, il y aura la ministre Cahen qui nous fait le plaisir d'être là et de pouvoir discuter cette problématique qui est très importante. Alors, il y a Annick Raskin du Conseil national des femmes qui sera là, Elisabeth Kell du CFFM, et il y aura une personne aussi qui s'est penchée sur la question fiscale, Stéphanie Rava, qui a fait une étude récente sur justement la différence de fiscalité entre les familles monoparentales. Et surtout, il y aura des familles monoparentales. Donc, ce que veut faire le LISER avec cette initiative, c'est vraiment descendre dans un café pour pouvoir discuter d'un sujet de société.
Donc tout le monde est invité.
Oui, tout le monde est invité. Et il y a du babysitting, c'est important.
Dit Anne-Catherine Guillot, oui. Chercheuse au LISER. Je vous remercie pour cet entretien.
Merci.
Anne-Megandringer, heute durch Gespräch gefordert vom Mam Anne-Catherine Guillot vom LISER.